Chapitre 8. Départ. L'arrivée au manoir de Cressay le lendemain matin d'un chevaucheur portant fleur de lys à la manche gauche et les armes royales brodées au col produisit grand effet. On lui donna du Monseigneur, et les frères Cressay, sur la foi du bref billet qui les mandait d'urgence à Vincennes, se crurent appelés à quelque commandement de capitainerie ou déjà nommé sénéchaux.
Cela n'est point étonnant, dit Dame Eliabelle. On se sera enfin souvenu de nos mérites et des services que nous avons rendus au royaume depuis 200 ans. Ce nouveau roi m'a l'air de comprendre où il lui faut trouver des hommes valeureux. Allez, mes fils, parez-vous de votre mieux et hâtez-vous de trotter. Il y a décidément un peu de justice au ciel, et cela nous consolera des hontes que nous a faites votre sœur.
Elle était mal remise de sa maladie de l'été. Elle s'alourdissait, avait perdu sa belle activité d'antan, et ne montrait plus guère son autorité qu'en tracassant sa servante. Elle avait abandonné à ses fils la direction du petit domaine, qui n'en allait guère mieux. Les deux frères se mirent donc en route, la tête pleine d'espérances ambitieuses. Le cheval de pierre cornait si fort en arrivant à Vincennes qu'on pouvait bien penser que ce serait son dernier voyage.
« J'ai à vous entretenir de choses graves, mes jeunes sires, » leur dit Bouville en les accueillant. Et il leur offrit du vin aux épices et des dragées.
Les deux garçons se tenaient sur le bord de leur siège comme des nigauds de campagne et osaient à peine approcher de leurs lèvres les hanapes d'argent.
« Ah, voici la reine qui passe, » dit Bouville. « Elle profite de l'éclaircie pour prendre un peu l'air. »
Les deux frères, le cœur battant, tendirent le cou pour apercevoir, à travers les vitres verdâtres, une forme blanche en grand manteau qui allait à pas lents, escortée de quelques serviteurs. Puis ils se regardèrent en hochant la tête. Ils avaient vu la reine.
« C'est de votre jeune sœur que je veux vous parler, » reprit Bouville. « Seriez-vous disposé à la reprendre ? Il vous faut d'abord savoir qu'elle a nourri l'enfant de la reine. »
Et il leur expliqua, dans le moins de mots possible, ce qu'il était indispensable de leur apprendre.
« Ah, j'ai une bonne nouvelle aussi à vous faire connaître, » continua-t-il. « Cet Italien qui l'a mise grosse, elle ne veut point le revoir, jamais. Elle a compris sa faute et qu'une fille de noble sang ne peut s'abaisser à être femme d'un Lombard, si bien tourné qu'il soit, car il est plaisant d'un oiseau, il faut le reconnaître, et vif d'esprit. »
« Mais enfin, ce n'est qu'un Lombard !»
coupa Madame de Bouville qui, cette fois, assistait à l'entretien.
« Un homme sans aveu ni foi, il l'a bien montré !»
Bouville baissa la tête.
« Et voilà. Toi aussi, il me faut te trahir, mon ami Guccio, mon gentil compagnon de voyage. Ne dois-je donc finir mes jours qu'en reniant tous ceux qui m'ont marqué de l'amitié »
pensait-il. Il se tut, laissant à sa femme le soin de conduire l'opération. Les frères étaient un peu dépités, l'aîné surtout. Ils s'étaient attendus à merveille, et il ne s'agissait que de leur sœur. Aucun événement dans leur vie n'arriverait donc jamais que par elle. Ils la jalousaient presque. Nourrice du roi, et de si haut personnage qu'un grand chambellan s'intéressant à son sort. Qui aurait pu imaginer cela? Le caquet de Madame de Bouville ne leur laissait guère le temps de réfléchir.
« Le devoir du chrétien, disait Madame de Bouville, est d'aider le pécheur en son repentir. Conduisez-vous en bons gentilshommes. Qui sait si ce n'était point l'effet de la volonté divine que votre sœur se trouvât accouchée au moment qu'il fallait, sans grand bien, hélas, puisque le petit roi est mort. Mais enfin, elle lui a porté secours. »
La reine Clémence, pour témoigner sa reconnaissance, ferait inscrire l'enfant de la nourrice pour un revenu de 50 livres à prendre chaque année sur son douaire. En outre, un don de 300 livres en or serait remis dès à présent. La somme était là, dans une grosse bougette brodée. Les deux frères Cressay cachèrent mal leur émoi. C'était la fortune qui leur tombait des cieux, le moyen de faire relever le mur d'enceinte de leur manoir ébréché, la certitude d'une table fournie toute l'année, la perspective de s'acheter enfin des armures et d'équiper quelques-uns de leurs serfs en valets d'armes afin de pouvoir paraître avec avantage au lever de bannière. On parlerait d'eux sur les champs de bataille.
« Entendez-moi bien, » précisa Madame de Bouville. « C'est à l'enfant que ces dons sont faits. S'il était maltraité ou qu'il lui arriva malheur, Le revenu, bien sûr, serait supprimé, car d'être le frère de lait du roi lui confère une distinction que vous devez respecter.
Certes, certes, j'approuve. Puisque Marie se repent, dit le frère barbu, mettant de l'emphase à son empressement, et puisque son pardon nous est présenté par si haute personne que vous, messire, madame, nous lui devons ouvrir les bras. La protection de la reine efface son péché, et que nul désormais, noble ou vilain, ne s'avise d'en rire devant moi. Je le tranche.
Et notre mère ? Demanda le cadet.
Je me fais fort de la convaincre, répondit Jean. Je suis le chef de famille depuis la mort de notre père, il ne faut pas l'oublier.
Vous allez, reprit madame de Bouville, jurer sur les évangiles de ne rien écouter ni répéter de ce que votre sœur pourrait vous dire avoir vu pendant qu'elle fut ici, car ce sont des choses de couronne qui doivent rester secrètes.
D'ailleurs, elle n'a rien vu, elle a nourri, et voilà tout.
Mais votre sœur a un peu d'extravagance dans la tête et se plaît à conter des fables. Elle vous l'a bien prouvé.
Hugues, va quérir les évangiles.
Le livre saint d'un côté, le sac d'or de l'autre, et la reine qui passait dans le jardin. Les frères Cresset jurèrent de taire toutes choses concernant la mort du roi Jean Ier, de veiller, nourrir et protéger l'enfant qui appartenait à leur sœur, ainsi que d'interdire leur porte à l'homme qui l'avait séduite.
« Ah, nous le jurons de grand cœur, qu'il ne reparaisse jamais celui-là !» s'écria l'aîné.
Le cadet montrait moins de conviction dans l'ingratitude. Il ne pouvait s'empêcher de penser, tout de même, sans goutte chaud.
Nous nous informerons d'ailleurs pour savoir si vous êtes attentif à votre serment, dit madame de Bouville.
Elle offrit aux deux frères de les accompagner sur le champ au couvent des Clarisses.
« C'est trop de peine vous donner, madame, dit Jean de Cresset. Nous irons bien nous-mêmes.
Non, non, il faut que j'y vienne. Sans mon ordre, la mère abbesse ne laisserait point sortir Marie. »
Le visage du barbu se rembrunit. Il réfléchissait.
« Qu'avez-vous ? » demanda madame de Bouville. « Voyez-vous quelques difficultés ? » ?»«
C'est que je voudrais auparavant acheter une mule pour y faire monter notre sœur. »
Alors que Marie était enceinte, il l'avait fait voyager en croupe de Naufle à Paris. Mais maintenant qu'elle les enrichissait, il tenait à ce que son retour s'effectuât avec dignité. Et puis, la mule qui servait à Dame Eliabelle était crevée depuis le mois précédent.
« Qu'à cela ne tienne, » dit madame de Bouville. « Nous allons vous en donner une. Hugues, commande donc qu'on selle une de nos mules. »
Bouville accompagna jusqu'au pont-levis sa femme et les deux frères Cresset.
« Je voudrais être mort. » Pour cesser enfin de mentir et de craindre,
pensait le malheureux homme, amaigri, frissonnant, en regardant la forêt décharnée.
Paris, enfin Paris, se disait Guccio Baglioni en passant la porte Saint-Jacques.
Paris était morose et froid. Le mouvement de la vie, comme toujours après les fêtes de l'an neuf, semblait s'y être arrêté, et ce janvier-là plus encore que de coutume par suite du départ de la cour. Mais le jeune voyageur qui rentrait après 6 mois d'absence ne voyait pas les pans de brume accrochés au toit, ni les rares passants transis. Pour lui, la ville avait visage de soleil et d'espérance, car cet « enfin Paris » qu'il se répétait comme la plus heureuse chanson du monde voulait dire « enfin je vais retrouver Marie ». Guccio portait pelisson fourré et cape de pluie en laine de chameau. À sa ceinture, il sentait peser une bourse à cul de vilain, emplie de bons livres marqués au coin du pape. Il était coiffé d'un galant chapeau de feutre rouge retroussé en arrière et formant longue pointe au-dessus du front. On ne pouvait être mieux vêtu pour plaire. On ne pouvait non plus éprouver plus grand plaisir de vivre qu'il n'en ressentait. Il sauta de selle dans la cour de la rue des Lombards et, lançant en avant sa jambe toujours un peu raide depuis l'accident de Marseille, courut se jeter dans les bras de Ptolomée.
« Mon cher oncle, mon bon oncle, avez-vous vu mon fils ? Comment est-il ? Et Marie, comment a-t-elle supporté ? Que vous a-t-elle dit ? Quand m'attend-elle ? »
Ptolomée, sans un mot, lui tendit la lettre de Marie de Cresset. Guccio la lut 2 fois, 3 fois. Sur les mots « Sachez que j'ai pris grande aversion pour mon péché et ne veux plus revoir jamais celui qui est cause de ma honte. Je me veux racheter de ce déshonneur. » Il s'écria, «
Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas elle qui a pu écrire cela.
Ce n'est point son écriture, demanda Tholomei.
Si.
Le banquier posa la main sur l'épaule de son neveu. Je t'aurais prévenu à temps si je l'avais pu, dit-il. Mais je n'ai reçu cette lettre que le jour d'avant-hier, après être allé voir Bouville.
Guccio, le regard ardent et fixe, les dents serrées, ne l'écoutait pas. Il demanda l'adresse du couvent.
Le faubourg Saint-Marcel, j'y vais,
dit-il. Il réclama son cheval, qu'on avait à peine fini de bouchonner, retraversa la ville sans plus rien en voir et alla sonner à la porte des Clarisses. Là, il lui fut répondu que la demoiselle de Cresset était partie de la veille, emmenée par deux gentilshommes dont l'un portait une barbe. Il eut beau brandir le sceau du pape, tempêter, faire scandale, il ne put rien obtenir de plus.
« L'abbesse ! Je veux voir la mère abbesse »
criait-il. « Les hommes ne peuvent point pénétrer dans la clôture. » On finit par le menacer d'aller chercher les sergents du guet. Hors de souffle, le teint gris, les traits changés, Guccio revint rue des Lombards.
« Ce sont ses frères, ces gueux de frères qui l'ont reprise !» annonça-t-il à Tholomei. « Ah, j'ai été trop longtemps parti !» La belle foi qu'elle m'avait juré là et qui n'a pas tenu 6 mois. Les dames de noblesse, à ce qu'on nous prétend dans les romans, attendent 10 ans leur chevalier qui est à la croisade. Mais un Lombard, cela ne s'attend point. Car c'est cela, mon oncle, et rien d'autre. Relisez les termes de sa lettre. Ce ne sont qu'insultes et mépris. On pouvait l'obliger à ne point me revoir, mais non à me gifler de la sorte au visage. Enfin, mon oncle... Nous sommes riches de dizaines de milliers de florins. Les plus hauts barons viennent nous implorer de payer leurs dettes. Le pape lui-même m'a pris pour conseiller confident pendant tout le conclave. Et voilà ces crottés de campagne qui me crachent au front du haut de leur château fort qu'on jetterait bas d'une poussée d'épaule. Il suffit qu'ils paraissent, ces deux galeux, pour que leur sœur me renie. Comme on se trompe quand on croit d'une fille qu'elle n'est pas de même sorte que ses parents.
Le chagrin chez Guccio se tournaient vite en colère, et les ressentiments de l'orgueil l'aidaient à se défendre du désespoir. Il avait fini d'aimer, mais non point de souffrir.
« Je ne comprends point, » disait Tholomei, désolé.
« Elle paraissait si aimante, si heureuse d'être à toi. Jamais je n'aurais pensé. Je vois maintenant pourquoi Bouville semblait si gêné l'autre jour. Il savait quelque chose, sûrement. » Et pourtant, les lettres que j'avais reçues d'elle, je ne comprends point. Veux-tu que j'aille revoir Bouville ?
Je ne veux rien ! Je ne veux plus rien ! Cria Guccio. Je n'ai que trop importuné les grands de la terre du soin de cette garce trompeuse, jusqu'au pape lui-même, à qui j'ai demandé protection pour elle. Aimante, dis-tu, elle t'a fait cajolerie quand elle se croyait repoussée par les siens et qu'elle ne voyait que nous pour recours. Nous étions bien mariés pourtant. Car l'impatience ne lui manquait pas de se donner, mais non sans bénédiction de prêtre. Tu me disais qu'elle a passé 5 jours auprès de la reine Clémence à servir de nourrice. La tête a dû lui tourner de remplir un office qu'une quelconque chambrière eût pu tenir à sa place. Moi aussi, j'ai été près de la reine, et je l'ai autrement aidée. Au milieu de la tempête, je l'ai sauvée.
Il ne reliait plus ses idées, divaguait de fureur, et à marcher dans la pièce en lançant la jambe, avait bien parcouru 1/4 de lieue.
« Peut-être si tu allais prier la reine. »«
Ni la reine, ni personne !»« Que Marie retourne à son hameau fangeux, où l'on enfonce dans le purin jusqu'aux chevilles. »« On lui aura sans doute trouvé un mari, un bon mari, à la semblance de ses crottés de frères. »« Quelque chevalier poilu et sentant fort, et qui lui fera d'autres enfants. »« Elle viendrait maintenant se traîner à mes pieds, que je n'en voudrais plus, tu entends ? Je n'en voudrais plus !»«
Je crois bien que si elle entrait, tu parlerais autrement, » dit doucement Tholomei.
Guccio pâlit et se cacha les paupières dans le fond de sa paume.
« Ma belle Marie !»
Il la revoyait dans la chambre de Naufle. Il la revoyait de tout près. Il apercevait les points d'or de ses yeux bleus sombres. Comment une pareille trahison avait-elle pu se dissimuler dans ses yeux-là ?
« Je vais partir, mon oncle. »«
Où cela ? Tu retournes en Avignon ?
La belle figure que j'y ferai !» J'ai annoncé à tout un chacun que j'allais revenir avec mon épouse. Je l'ai parée de toutes les vertus. Le Saint-Père lui-même sera le premier à m'en demander des nouvelles.
Bocas me disait l'autre jour que les Peruzzi vont sans doute affermer la recette des tailles dans la sénéchaussée de Carcassonne.
Non ! Ni Carcassonne, ni Avignon.
Ni Paris, bien sûr, dit tristement Tholomyès.